Vous écoutez
RMC.
Et Christophe Boucher nous rejoint dans l'After. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Alors, on est ravis de vous avoir parce que vous savez, nous, l'After, on est là tous les soirs depuis qu'il n'y a plus de foot. Et on a tourné dans tous les sens les débats, reprise par reprise, gouvernance, choix des uns, position des autres. Enfin, voilà. Donc, votre avis d'expert nous intéresse, d'autant que vous avez donné une interview très intéressante il y a quelques jours en la matière. Est-ce que, Christophe Boucher, vous comprenez les présidents qui, comme Jean-Michel Aulas, disent aujourd'hui on n'aurait pas dû se précipiter, la décision gouvernementale d'arrêter le foot était bien trop hâtive?
Oui, on peut toujours comprendre. On peut toujours comprendre parce que, de toute façon, dans le Covid, dans la gestion de la crise, il n'y a que des mauvaises solutions. Donc, de toute façon, il faut faire l'arbitre entre de mauvaises solutions. Donc, le gouvernement n'a le choix que de faire des mauvaises solutions. Des moins mauvaises solutions peut-être parfois, et pour le foot, il aurait pu aussi faire d'autres solutions. Mais je pense que la solution qui était dictée pour le gouvernement au sujet du foot, le foot peut aussi un peu s'en prendre, le foot français, des clubs, je précise, le foot français des clubs, peut s'en prendre aussi un peu à lui-même. C'est-à-dire d'avoir affiché ce triste spectacle à la France entière de déchirement, de pantalonnade, de d'émissaires, de groupes de pression, de désaccords. Qu'est-ce que vous voulez? À un moment, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui siffle la fin de la partie. Le gouvernement l'a fait. Je crois que si Jean-Michel Aulas est déçu de la décision, il peut un peu s'en prendre à lui-même.
Vous avez parlé dans l'interview d'images indécentes données par le football. Évidemment, ce que vous venez de dire participe de cette image. Plus globalement, vous pensez que c'était une occasion pour le foot français, justement, peut-être de gommer un peu cette image, parce que cette image, elle a également fait que, bon, ben, la plupart des gens, des Français, même supporters de foot, ont dit bon, ben, c'est pas grave si ça s'arrête et si on fait rien pour que ça reprenne, parce qu'après tout, en gros, c'est des caprices de riches, ce qui retombe souvent toujours un peu sur la tronche du football. On fait rien finalement pour échapper à cette image-là négative.
Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Le football français de club a une image médiocre, à tort et à raison. À tort parce que il y a dans le football la dimension d'argent et que c'est tabou pour les Français, que ça l'est moins pour les Allemands et moins pour les Anglais, encore moins pour les Anglais. Donc des fois à tort, mais à une image médiocre. Et là, le foot avait une occasion, excusez-moi parce que c'est assez cynique comme propos finalement, avait une occasion en or de montrer ce qu'il était, de montrer sa générosité, de montrer son partage, de montrer qu'il faisait société avec le reste de la France. Et alors, au lieu de ça, qu'est-ce qu'on a eu? Bah, on a eu des déchirements, des engueulades, des joueurs, je trouve, qui n'ont pas pris leurs responsabilités. J'en veux beaucoup aux joueurs qui n'ont pas pris leurs responsabilités, comme certains l'ont fait dans d'autres pays. D'ailleurs, ce qui aurait apporté beaucoup de solutions à beaucoup de problèmes du foot. Et puis, pour les plus avisés, il y a quand même aussi...
C'est quoi prendre ses responsabilités, M. Boucher? Pardon, mais je vous coupe.
C'est prendre ses responsabilités, c'est de dire que on pouvait trouver une solution assez simple, me semble-t-il, que les joueurs abandonnent 3 mois de leur salaire sur l'année et qu'ils puissent être reconduits d'un an s'ils le souhaitaient, pour pas que les clubs en profitent, hein, parce qu'il y a des clubs qui auraient profité de l'aubaine, donc il fallait empêcher les clubs de profiter de l'aubaine, et que 3 mois dans une vie de joueurs, on aurait pu le plafonner, on aurait pu trouver des solutions techniques pour que les joueurs qui touchent moins, peut-être, aient d'autres solutions. Ouais. Bref, il y avait plein de solutions.
Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus.
Donc, ils abandonnaient 3 mois. Ça sauvait les clubs, ça sauvait leur année. Ils étaient reconduits, donc quelque part, les joueurs pouvaient y gagner aussi, sauf ceux qui ne voulaient pas. Je trouve vraiment qu'il y avait une solution en or à trouver. Et elle aurait vraiment donné une image aux joueurs supérieure à celle qui est aujourd'hui. Donc, elle leur aurait donné d'ailleurs une position de leader, une position de, d'exemple.
Et,
il faut jamais oublier que le football professionnel est suivi. C'est aussi, c'est pas sa vocation, mais c'est une conséquence de sa popularité. C'est aussi une valeur d'exemple pour les gamins. Moi, j'ai encore un gamin de 15 ans, 16 ans, mais il suit pas à pas ce que font les joueurs de foot. Il suit les réseaux sociaux, il suit ce que les joueurs de foot disent.
C'est vrai, c'est vrai. Mais monsieur Boucher, là, à l'arrivée, vous avez de l'expérience, vous, en tant, vous avez été président de club. Vous pensez pas quand même que c'est l'image que dégage votre président, le sens des responsabilités? Quand vous avez un président.
On parle de Kylian Legrette, là?
Non, du président du club.
Président du club, mais sur l'ensemble, ce que vous avez dit, et moi je rejoins, et Daniel le disait aussi, le fait que ça soit, il y a eu entre l'indécence et puis défendre son petit bout de gras chacun.
Tu dis qu'à partir du moment où en haut l'exemple est mal donné,
l'exemple a été. Pour les joueurs, quoi. Vous êtes d'accord avec moi que pour les joueurs, c'est aussi compliqué d'avoir une union sacrée, sachant que tous les présidents se déchirent.
Oui, non mais j'entends le propos. Il y a un vrai problème. Alors non mais mettons les pieds dans le plat. Hein. Ouais. Il y a un vrai problème d'exemplarité de la gouvernance des clubs en France et de la Ligue.
Oui.
Clairement. C'est-à-dire, quant à la moindre erreur d'arbitrage, de VAR maintenant, de calendrier, de je ne sais pas quoi, il y a une contestation et on va voir ce qui va se passer et on va aller en justice et Pierre-Paul Oujac est un imbécile. Et quand vous voyez la pantalonnade qu'on a eue avec les droits TV où on envoie Nasser El Khelaifi négocier avec son concurrent, enfin
vous négociez avec lui-même même.
Son concurrent désormais allié dans le business.
Mais alors, excusez-moi Christophe Boucher, mais est-ce que finalement tout cela ne vient pas d'un problème structurel? C'est-à-dire que à la Ligue, on est encore en mode associatif et en fait la structure actuelle de notre football professionnel favorise tout ça. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être changer la structure.
Ce que ne veulent pas les présidents depuis 20 ans, la structure, vous avez raison, c'était en discussion, c'est revenu souvent sur le tapis du cadre juridique. Mais le cadre juridique, il est un peu accessoire, même si ça peut avoir son importance, il est accessoire. C'est que les présidents, les dirigeants français, les propriétaires de clubs, les présidents n'ont pas compris depuis des décennies qu'ils seraient plus forts ensemble que seuls de leur côté. Le problème en France, c'est que tous imaginent qu'à un moment ou un autre, parce qu'ils sont troisième du championnat, ils vont tirer demain leur épingle du jeu et qu'ils vont gagner à la grande martingale.
Et qu'ils n'auront plus besoin de personne.
Exactement.
Ah mais ça voilà. C'est...
Exactement. Et donc, et un Jean-Michel Aulas pour qui j'ai le plus grand respect et d'ailleurs une profonde admiration pour la ténacité du bonhomme, et c'est ce qu'il joue depuis 20 ans, il fait son stade, et les instances l'intéressent guère, sauf pour voir si l'OL n'est pas des fois dans des décisions mises de côté. Mais il s'en fiche. Oui, vous avez raison, il faut aussi changer de gouvernance. Mais depuis 20 ans, 30 ans, on ne souhaite pas qu'il y ait un président de la Ligue fort. On ne souhaite pas qu'il y ait un dirigeant fort.
Concrètement, arrêtons-nous là-dessus deux secondes parce qu'on en parle souvent de ça. Sauf que, concrètement, peut-être que les gens qui nous écoutent ne savent pas exactement comment ça marche. Pendant des années, on a eu un président de la Ligue, donc post-Sadou Le Graët, puis Thirier. On a le sentiment que c'était selon la personnalité du président qu'il arrivait à s'imposer un petit peu plus. Mais ça tenait de sa responsabilité et non pas des pouvoirs réels qu'il avait. Parce que finalement, il était l'émanation du vote et des arrangements de tout le monde professionnel qui décidait de porter à sa tête une personne. On a changé ça en mettant un directeur général, Didier Quillot, qui donc est dans ses fonctions, boss. Le président, d'un coup, on savait plus trop qui c'était. À la dernière élection, limite, à un moment, on avait oublié de voter pour lui. Et puis, au dernier moment, Nathalie Bois-de-la-Tour est sortie du chapeau. On pensait qu'elle ferait un peu présidente style 4e République pour inaugurer les stades. Et puis, bon, elle aussi, elle a voulu, parce que c'est à juste titre, elle a pas à considérer que c'est un pantin. Elle a voulu avoir un peu de pouvoir. Donc, tout s'est un petit peu à nouveau morcelé. Mais quel pouvoir réel pourrait avoir un patron de la Ligue à partir du moment où ce sont les présidents qui lui transfèrent ce pouvoir? Vous voyez cette espèce de blocage permanent qui va y avoir?
Oui, oui, je comprends, mais parce qu'ils n'ont pas l'intelligence et la personnalité suffisamment forte pour transférer effectivement leur pouvoir à un véritable homme fort.
Voilà.
Qu'est-ce qui fait le succès? Qu'est-ce que tout le monde sait? Quel est le succès de la NBA? C'est dû pas à un homme, c'est pas vrai. Mais il y a eu un homme pour porter le succès de la NBA, qui est David Stein.
David Stein, bien sûr.
Qui sait? Tout le monde sait que la Formule 1 était tournée un petit peu en rond dans les années 70, avant qu'un homme arrive à la tête et dise bon bah on va réformer le sujet, voilà comment on va faire, et qui n'a pas peur de dire à Ferrari bah écoute t'as fait une bêtise, t'as triché, on te met sur le côté ou on te ponctionne 10 ou 15 millions de dollars.
Absolument. Bon, on a eu ça en Angleterre avec Scudamore au moment de, oui, la première ligne.
Oui.
Autre président fort.
Là, ce qui était dit, je ne sais pas qui l'a dit, j'en suis désolé, mais oui, quand le président donne le triste spectacle à la fin du match d'engueuler l'arbitre...
C'est le grand Jérôme Rotten qui a dit ça.
C'est le grand Jérôme Rotten. Conteste. Bah, pourquoi voulez-vous que le club ne fasse pas la même chose que l'entraîneur de son côté, que les joueurs? Ils se sentent protégés par ça. C'est normal. Et avec, effectivement, avec... l'exemple qui est donné, qui n'est pas le bon. Or, là, à ce moment-là, celui qui fait ça, il faudrait qu'il y ait une ligue forte, ou un homme fort, ou les deux d'ailleurs, ce qui serait encore mieux, qui disent bah, c'est trois points en moins, ou c'est, je ne sais pas, s'il faut toucher au porte-monnaie, il faut le faire de façon brutale, c'est-à-dire il faut que ça soit tout de suite en millions d'euros, de façon à ce que les choses s'apaisent. Bon, regardez, le rugby a réussi ça, le rugby n'a pas tout réussi, des fois le rugby singe un peu le football. Mais regardez au moins pour l'arbitrage. Voilà. Donc, bon, je parle de l'arbitrage parce que c'est souvent un vrai débat dans le foot. Mais c'est le calendrier qui est mal ficelé, c'est la Coupe de la Ligue qui va aux uns mais qui va pas aux autres. Il y a toujours quelque chose qui va pas.
Ça tient, vous dites, à la volonté des présidents d'enfin lâcher un petit peu de leur pouvoir pour le conférer à une personnalité. Et l'autre aspect, ce serait que cette personnalité soit un véritable président fort. Aujourd'hui, bon, bah, le pouvoir est partagé un petit peu en deux. Et le dernier président, je le dis, je l'assume, je vous oblige pas à être d'accord avec moi, Frédéric Thiriet était une sorte de pantin, le mot est un petit peu fort, mais de représentants du foot, comme ça, qui en plus, dès qu'il parlait foot, était toujours à côté de la plaque, parce qu'on avait le sentiment qu'il savait pas de quoi il parlait.
Il a quand même à son crédit les premiers appels d'offres réussis, qui dépassaient les 400 millions.
Considérer que c'est un exploit, un appel d'offres. Le président de la Ligue n'est pas là uniquement pour réussir un appel d'offres. Un appel d'offres, c'est découper des lots, certes de façon intelligente, avec des spécialistes.
Ça finance les clubs, quand même.
Alors moi, je vais vous dire,
Christophe Boucher.
Vous donner mon avis sur le sujet. Les appels d'offres, c'est un secteur que je connais bien. Il y a 4 ou 5 bonhommes qui ont réussi les appels d'offres dans le foot français.
Voilà.
C'est ceux qui étaient aux manettes derrière, qui s'appelaient à l'époque Stéphane Dor puis Guillaume Verly. Et le dernier, c'était Mathieu Ficot.
Directeur juridique de la Ligue, oui.
Exactement. Le directeur est peut-être marketing maintenant, non?
Je ne sais plus, mais enfin, il a été. Il s'occupait droit.
Ouais. J'ai dit Verly, c'est Guillaume. Je m'excuse pour Guillaume, mais j'ai un trou de mémoire. Mais c'est eux qui. Je sais, puisque je l'ai fait, je faisais partie de la commission marketing, et c'est eux qui bâtissaient les appels d'offres. Bien sûr que les présidents donnaient leur avis, bien sûr que les présidents donnaient leur sensibilité, bien heureusement, parce que là-dedans, il y a des types de grandes qualités sur le plan économique. Je pense à un Aulas encore, je pense à un Sadran, je pense à un Jacques-Henri Guéret aujourd'hui, à un River, un Ferry, tout ça. Ces gens-là ont des compétences, des intuitions, mais de grâce, qu'ils lâchent la bride. Ils ont des bons techniciens. Et de même manière, il faut qu'ils aient un bon directeur général ou un bon président. Là, vous avez quand même un directeur général et une présidente qui ont été interdits d'aller négocier avec les diffuseurs.
Oui, c'est absolument hallucinant. Cet épisode-là
drôle,
a été terrible dans la séquence qu'on vient de traverser. Ouais.
Bah, d'ailleurs, j'ai lu une interview me semble-t-il, sensée, je ne peux pas me poser en censeur, mais assez sensée, de Nathalie Bois de la Tour, qui elle-même dit que l'image qui a été donnée dans l'épisode, là, dans la période, il n'est pas bon.
Ouais,
quel dommage, quel gâchis. Parce que le foot ne retrouvera pas souvent, le foot français ne retrouvera pas souvent l'occasion de se refaire l'image qui est aujourd'hui médiocre.
Sans parler de l'épisode où un syndicat parallèle décide unilatéralement de baisser les salaires des du président et du directeur général de la Ligue.
Oui, Première Ligue en l'occurrence. Oui.
Ça, c'était un épisode absolument grotesque. Comme a dit Nathalie Bois-de-la-Tour, on aurait évidemment accepté, mais c'est quand même la moindre des choses de nous poser la question et de nous demander.
Christophe Boucher, est-ce que vous suivez toujours de près les affaires de l'OM ?
Oh, un petit peu, oui.
Vous avez vu qu'économiquement, ça va pas très fort, là ?
Oui, ça va pas fort. C'est compliqué. J'ai un peu de mal à comprendre. J'ai beaucoup de respect pour Jacques-Henri Hérault, qui me semble être quelqu'un qui sait où il va. J'ai l'impression que dans l'euphorie de l'arrivée de Franck McCourt, il y a eu beaucoup de dépenses autour des salaires des joueurs.
Oui. Et ça, c'est Jacques-Henri Hérault, en l'occurrence.
Oui. Non, j'entends, mais je sais pas. Il faut pas commettre d'erreurs. J'ai pas les éléments, donc je veux pas. C'est pas à moi de juger. Mais quelle enveloppe on lui a donnée, qu'est-ce qu'on lui a promis, etc., etc. Ça, je sais pas. Donc, il faudrait savoir. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que l'OM vit au-dessus de ses moyens. C'est un constat. Je pense que on pouvait faire vraisemblablement avec les mêmes joueurs 30% moins cher, mais bon, c'est ainsi. Maintenant, il faudra, je ne sais pas ce que fera Franck McCourt. On a beaucoup raillé et j'en suis triste parce que si on remet dans le bon cadre, on a beaucoup raillé Robert Louis Dreyfus pour les pertes qu'il avait eues à l'OM, mais finalement Franck McCourt en quelques années a fait aussi bien. Ce que je regrette aussi parce que je pense que c'est pas un bon spectacle non plus là pour le foot. Je pense que le foot a besoin d'un OM fort. Je pense qu'un des vrais problèmes de la Ligue, c'est aussi qu'il y ait trop, et j'y ai participé, donc il y a trop de zapping au sein de l'Olympique de Marseille depuis 30 ans, et qu'il n'y a pas de dirigeant stable, et que la voix de l'OM ne porte pas suffisamment, et que la voix de l'OM ne portant pas suffisamment, il ne peut pas y avoir quelque part de gentleman agreement avec l'OL, avec le PSG, pour justement bâtir un collectif fort. Et ça joue des tours aussi au foot français.
Ah, vous êtes maire de Tours désormais depuis 3 ans, je crois. Vous avez aussi un club historique à Tours. Nous, on a Florent Gautreau qui était avec nous encore il y a quelques semaines dans l'after, qui suit l'actu du Tour FC frénétiquement.
Ouais, j'imagine, ouais.
Vous en êtes où là avec le club?
J'aurais préféré que vous ne me posiez pas la question, mais maintenant qu'elle est posée, je vais y répondre. Écoutez, ça va mal. Voilà, ça va mal. Le club est descendu de 4 divisions en 3 ans, ce qui est quand même un exploit. Ouais. Donc remonte d'une là ce coup-ci, mais je crois que c'est compliqué. Je crois qu'on a un propriétaire, Jean-Marc Ettori, qui est un vrai fan de foot, mais je crois que c'est compliqué. Tapie avait réussi, mais c'était Tapie et c'était l'OM. Je crois que c'est très très compliqué d'essayer de gérer depuis la Corse un club en Touraine. Et inversement, ouais, ça serait très compliqué de gérer depuis la Touraine un club en Corse. Un club, vous savez, c'est une partie intégrante d'une ville. Partout, dans n'importe quel club de foot, il faut que tous les ingrédients soient dans la marmite. Il faut que le pouvoir politique, le pouvoir économique, les supporters, qu'il y ait quelque chose qui se passe autour du club. Or ça a disparu à Tours. Et évidemment, on a un propriétaire et président qui est un petit peu têtu. Ça peut être une qualité, mais en l'occurrence, ça nous joue quelques tours.
Merci beaucoup Christophe Boucher. C'était intéressant. Merci. Et à très bientôt pour reparler foot sur RMC.
À très bientôt.
Bonne soirée.
Bonne soirée à
merci
vous.
Merci Monsieur Boucher, à bientôt.